Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
On prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous raconte l'histoire passionnante et mouvementée du Bitcoin et de la blockchain. Chaque mois, nous vous expliquons simplement en quoi cette révolution est économique, politique et surtout philosophique. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Brian O'Hagan, marketing manager chez CoinHouse, le premier courtier français en crypto-monnaie. Il nous parlera de leur rôle croissant dans le jeu international et notamment des perspectives qu'elles offrent pour les pays et leurs populations sous pression économique. Aujourd'hui, on parlera Venezuela, Zimbabwe, Chypre et bien d'autres. Mais ce qui nous intéresse particulièrement se situe en Iran. Brian O'Hagan est un témoin privilégié puisqu'il se trouvait justement là-bas quand les États-Unis ont annoncé le rétablissement des sanctions économiques.
Je suis parti en mai. Je suis parti le 6 mai, je me souviens très bien. Je suis parti pour 3 semaines et demie. Je suis rentré le 29 mai. Et donc, c'était hyper intéressant parce que le 8 mai, Donald Trump a fait une conférence de presse en annonçant que les États-Unis se retiraient du partenariat sur le nucléaire iranien et qu'il n'y aurait plus de deal et donc il y aurait de nouvelles sanctions contre l'Iran. Donc j'ai assisté en fait à cette conférence de presse depuis l'Iran et en regardant la télé iranienne et j'ai vu les conséquences de cette décision dans l'économie iranienne par la suite.
Ces conséquences sont simples. Le pays se retrouve complètement isolé du système financier international et sa monnaie, le rial, s'effondre. C'est dans ce sens que plusieurs officiels iraniens ont récemment déclaré que l'État travaillait au développement d'une crypto-monnaie nationale pour contourner les sanctions. Bon, ce projet est encore à l'état d'ébauche, mais en attendant, de nombreux locaux se tournent déjà vers le Bitcoin pour moins souffrir de celle-ci. Mais souffrir de quoi exactement?
Alors les conséquences des sanctions américaines, c'est que aujourd'hui, si je suis un Iranien, je ne suis pas en capacité d'acheter du dollar américain, puisque c'est devenu interdit. Et donc le problème, c'est que l'Iran fait face à une inflation galopante en ce moment. Le fait que les sanctions américaines ont été imposées de nouveau veut dire que les Iraniens ne peuvent plus exporter leurs produits aussi facilement qu'avant, que ce soit aux États-Unis bien évidemment, mais que ce soit même dans les pays européens, et que les entreprises européennes et les entreprises américaines se retirent d'Iran, et donc il y a beaucoup moins d'investissements. Aujourd'hui, les Iraniens et même les partenaires qui ont du capital en Iran souhaitent fuir l'Iran parce que la valeur du rial est en train de dégringoler et donc ils cherchent à investir dans d'autres valeurs refuges comme l'or, comme le dollar et potentiellement comme le bitcoin.
D'accord. Et comment le bitcoin justement peut offrir une solution à ces problèmes ?
Alors, tout simplement, lorsque je suis iranien, aujourd'hui, les prix augmentent et mon pouvoir d'achat diminue. Donc, une manière de se protéger de cette diminution du pouvoir d'achat et de trouver des valeurs refuges, le bitcoin en est une. Et donc, un des vecteurs d'intérêt du bitcoin pour les Iraniens est cette notion de valeur refuge. C'est-à-dire que mon pouvoir d'achat ne va pas diminuer. Le deuxième est la possibilité à travers le bitcoin de faire des transactions avec le monde extérieur. Aujourd'hui, lorsqu'on est en Iran, on n'est pas en capacité d'acheter divers outils ou produits sur Amazon ou se connecter avec le monde financier tel que l'on connaît nous, puisque le rial n'est pas accepté. Aujourd'hui, l'Iran fait partie d'une liste qui s'appelle le GAFI. C'est une liste noire sur laquelle, effectivement, il est très difficile de faire d'accepter des clients iraniens ou de faire des transactions avec des entreprises iraniennes. BNP Paribas a d'ailleurs reçu une amende en 2014 de 9 milliards de la part du département de justice américain, car BNP Paribas avait aidé des entreprises iraniennes à manipuler des dollars.
Juste, il faudrait rappeler par rapport à ça. Le dollar est actuellement fondamental dans le commerce international. Hein. Tout le monde l'utilise pour faire des échanges depuis la Seconde Guerre mondiale. Résultat, les États-Unis peuvent faire la pluie et le beau temps sur ceux qui l'utilisent. Hein. Du coup, si on élimine cet intermédiaire qu'est le dollar avec le bitcoin, ça rebat un peu les cartes, non ?
Tout à fait. Le Bitcoin, en fait, peut devenir un outil de géopolitique. Aujourd'hui, avec le Bitcoin, en tant qu'Iranien, je peux recevoir des paiements pour des services que je produirai en Iran. Aujourd'hui, en tant qu'Européen, je n'ai pas le droit, ne serait-ce que de faire des transactions en euros en tant qu'entreprise avec l'Iran, car si après je souhaite faire des transactions aux États-Unis, je suis flagué comme une entreprise ayant fait des transactions en Iran, et donc ça pose des problèmes. J'ai par exemple le cas concret d'un mineur que j'ai rencontré en Iran, et cette personne avait une installation dans un site industriel où il avait de l'électricité peu chère, à 1,2 centimes le kilowatt par heure, ce qui est vraiment rien du tout. Il avait un gros bâtiment industriel dans lequel il pouvait installer plein de cartes graphiques, et il avait besoin d'argent, d'investissement pour aller acheter ces cartes graphiques qui aujourd'hui sont en train d'augmenter en termes de prix. Et donc il avait des investisseurs étrangers de Singapour, d'Europe et même des États-Unis qui investissaient dans sa ferme de minage à travers les crypto-monnaies. Donc là, en l'occurrence, ils envoyaient des ethers, donc par exemple 20 000 euros en ether. Lorsque notre ami iranien mineur en Iran recevait ses ethers, il était en capacité d'aller les convertir, et en une demi-heure il avait l'argent en rial sur son compte en banque avec lequel il pouvait acheter des cartes graphiques dans un supermarché d'ordinateurs là-bas, et donc mettre en place un moyen de miner de l'ether et donc de créer de l'ether pour ses clients.
D'accord. Et on entend depuis plusieurs mois des officiels iraniens évoquant la création d'une crypto-monnaie nationale pour contourner les sanctions américaines. Dans quelle mesure ça pourrait vraiment aider l'Iran ?
Alors aujourd'hui, l'Iran a nombre de partenaires au niveau national pour vendre son pétrole. L'export iranien de pétrole représente énormément du marché pétrolier mondial. Je crois que l'Iran est le deuxième plus grand exportateur de pétrole. Et donc, même si les États-Unis vont arrêter d'acheter du pétrole iranien, la Chine, l'Inde et d'autres pays vont le faire. Par contre, ils ne peuvent pas le faire en dollars, ils vont essayer de le faire dans d'autres monnaies. Aujourd'hui, une des idées potentielles, c'est de le faire dans une crypto-monnaie qui permettrait d'être totalement déconnectée du système financier actuel et donc de ne pas du tout toucher ou d'être contagieux vis-à-vis des dollars. Donc ça, c'est une manière, en fait, aujourd'hui, on voit plein de pays, notamment de pétro-pays comme le Venezuela, comme l'Iran et d'autres aussi qui regardent cette option-là pour utiliser les crypto-monnaies pour éviter les sanctions, les embargos américains qui posent problème dans ces pays.
D'accord. Si je comprends bien, une crypto-monnaie étatique pour un pays, c'est un moyen quand même de garder la main sur cette monnaie. Si on passait au 100% Bitcoin, l'Iran perdrait tout le contrôle sur sa monnaie. Donc ils ont plus intérêt à créer une crypto-monnaie étatique.
C'est ça. En fait, aujourd'hui, ce qui fait peur à ces pays, c'est de perdre la souveraineté sur leur monnaie. Le Bitcoin étant une crypto-monnaie décentralisée, cette décentralisation fait énormément peur. Donc ils essayent de trouver un moyen de créer une monnaie centralisée liée à la banque centrale qu'ils vont pouvoir, sur lequel ils vont pouvoir choisir justement le mode d'émission monétaire, sur lequel ils vont pouvoir tracer qui a fait quoi, quand. Aujourd'hui, le gros problème pour ces monnaies numériques étatiques serait le côté, en fait, de conversion. Où est-ce qui pourrait acheter ces monnaies, ou comment, tandis que le Bitcoin a déjà un écosystème, donc convertibilité partout dans le monde, qui est très fort et qui permet justement de se connecter au monde extérieur lorsqu'on est en Iran.
S'il y avait une crypto-monnaie iranienne, on imagine que les États-Unis pourraient s'en prendre aux plateformes d'échange, aux bourses d'échange pour qu'elles
aucune
arrêtent.
Aucune plateforme d'échange ne listera une crypto-monnaie iranienne, c'est clair.
Par contre, il y a des plateformes d'échange décentralisées.
Oui, il y a également des plateformes d'échange décentralisées, et ça serait intéressant de voir si ces plateformes d'échange décentralisées listeraient ces crypto-monnaies-là et qu'est-ce qu'il arriverait si elles le feraient.
D'accord.
Donc voir justement, sont-elles réellement décentralisées, à quel point.
Et j'imagine qu'il y a des défis techniques qui attendent l'Iran pour créer une crypto-monnaie nationale digne de ce nom, surtout au niveau de la sécurité.
Tout à fait. C'est un des grands défis d'une monnaie numérique centralisée étatique, c'est l'implémentation, les choix de design de cette crypto-monnaie, est-ce que le code sera propre et comment vont-ils les mettre. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du Venezuela, on a très peu d'informations sur leur crypto-monnaie qui est censée être sortie.
Justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette crypto-monnaie, le pétro, qui à la base a servi surtout à lever de l'argent sur les marchés parce qu'il y avait des sanctions américaines?
C'est ça. Alors, honnêtement, pas grand-chose. Je pense que c'était vraiment une nécessité pour le Venezuela de trouver d'autres manières de financer son économie. On peut dire, c'est pas un euphémisme de dire que le Venezuela est dans de grands problèmes économiques en ce moment. Ils ont donc décidé de lancer le pétro, qui serait une crypto-monnaie backée par des barils de pétrole, au même titre que le dollar pouvait être backé par l'or avant Bretton Woods, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on n'a pas accès au smart contract, on n'a pas accès à l'information sur le pétro. On sait que Nicolas Maduro, le président du Venezuela, a dit qu'ils avaient levé plus de 735 millions et voire plus depuis, mais on ne le voit pas.
Ouais, donc pas clair du tout, quoi.
Pas clair, et là, si je crois bien, ils doivent sortir une nouvelle monnaie, c'est-à-dire qu'ils vont retirer 3-4 zéros sur leur billet de banque actuel, et cette monnaie serait backée par le pétro, qui lui serait backé par les barils de pétrole.
Et ce qu'on constate aussi au Venezuela, c'est une utilisation croissante du Bitcoin, hein. Et le FMI s'attend notamment à une inflation de plus de 1 000 000% d'ici la fin de l'année. Le terrain est plutôt propice au Bitcoin, donc.
Tout à fait. C'est pour ça, en fait, que beaucoup de personnes portent de l'espoir sur les marchés des pays émergents quant au Bitcoin. Le Bitcoin est intéressant, en fait, lorsque la banque centrale du pays fait un peu n'importe quoi. Et il y a plusieurs pays émergents dans lesquels ils ont un historique des banques centrales qui émettent beaucoup d'argent, qui impriment beaucoup d'argent, et ça pose problème parce que l'inflation est galopante et donc les personnes qui possèdent cette monnaie-là voient leur pouvoir d'achat diminuer et donc ils ont envie de se protéger, et le Bitcoin aujourd'hui sort vraiment comme une manière de se protéger de ce point de vue-là. Et donc on peut penser au Venezuela, on peut penser au Zimbabwe,
on a imprimé des billets de 10 000 milliards de dollars zimbabwéens, c'est incroyable.
C'est ça. Et la complexité dans ces pays-là, c'est que généralement, ils vont fermer l'accès aux crypto-monnaies. Donc au Venezuela, aujourd'hui, c'est interdit d'en posséder, c'est interdit d'en miner. En Iran, ce n'est pas encore interdit d'en miner, mais déjà, ils ont interdit l'accès aux plateformes d'échange pour acheter et vendre du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et au Zimbabwe, je ne sais pas s'il y a beaucoup de solutions proposées pour convertir et échanger en Bitcoin. Donc ça, c'est un des problèmes à résoudre pour ces pays émergents si on souhaite voir la population s'emparer de ces technologies pour se protéger de ces banques centrales problématiques qui ont une politique monétaire qui n'est pas du tout indépendante du gouvernement et qui est juste imprimer de l'argent pour financer la dette du pays.
D'accord. Et tout ça, ça me fait penser aussi que l'une des premières fois où j'ai entendu parler du Bitcoin, c'était en 2013, quand le gouvernement chypriote avait laissé entendre qu'il pourrait taxer les dépôts en banque. Une partie de la population s'était alors tournée vers le Bitcoin justement pour préserver son épargne. Comment on peut parler de cette histoire ?
Alors, c'est assez simple en fait, c'est de se rendre compte que aujourd'hui, lorsqu'on a de l'argent en banque, la relation qu'on a avec cette banque, c'est une relation d'avoir et de dette. La banque vous doit l'argent que vous avez mis dans cette banque, c'est tout. Je le sais bien, je suis d'origine irlandaise, et l'Irlande a eu aussi ce problème de, l'État a renfloué les banques qui allaient faire faillite, et du coup l'État allait faire faillite, et donc l'Union européenne a dû renflouer l'État. C'était un peu le même système à Chypre, et donc le seul problème, c'est que Chypre étant un plus petit pays, l'effet de contagion était moindre, et ils ont décidé de suivre cette expérience que de laisser une banque faire faillite, qui était la deuxième plus grande banque de Chypre à l'époque, et ils ont décidé de taxer les dépôts de tout type de clients, des clients privés, des clients comme vous et moi, des consommateurs, et à hauteur de 6 ou 7% je crois. Et donc toutes les personnes qui avaient plus de 100 000 euros dans un compte en banque étaient taxées un certain montant sur la tranche au-dessus de 100 000 euros. Les 100 000 premiers euros, eux, étaient assurés par le gouvernement. Et ça, c'est effectivement un problème. Il faut comprendre que les banques ne sont pas invincibles et que les banques peuvent faire faillite et que les banques sont des entités privées. Et donc, il faut bien faire attention. Aujourd'hui, on a deux types d'argent. On a l'argent des monnaies publiques, qui est le cash, que l'on peut avoir dans la main, qui est l'argent public étatique, simple, et l'argent privé, qui est l'euro aussi, mais qui est dans votre banque, qui n'est pas l'argent de l'État, qui est l'argent de votre banque. Et donc, sur l'argent privé, à tout moment, elle peut disparaître. Aujourd'hui, en France, on n'a pas ce problème. On a la chance d'avoir un grand pays avec des grandes banques qui, si jamais le Conseil général venait de faire faillite, enfin, devrait faire faillite, eh ben, la France renflouerait la Société Générale et on n'aurait pas trop de problèmes. Par contre, sur les pays émergents, ce problème existe réellement. Le cas de la Grèce, le cas de Chypre, le cas d'Irlande, du Portugal, c'est des vrais cas et beaucoup de personnes ont eu peur de perdre tout leur argent à ce moment-là.
D'accord. Oui, pour en revenir à la crise chypriote où une certaine partie de la population s'était tournée vers le Bitcoin pour préserver son épargne, à cette époque-là, le Bitcoin avait atteint un niveau record autour de $300. Bon, ça nous semble très très loin, mais est-ce que si jamais ce genre de crise se reproduisait avec plus de fréquence, est-ce que ça peut avoir un effet sur le cours du Bitcoin ?
Donc le Bitcoin est un outil pour se protéger d'événements macroéconomiques anxiogènes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que le Bitcoin est vu comme une réserve de valeur pour deux raisons. La première, c'est que le Bitcoin est décorrélé des marchés financiers actuels. C'est-à-dire qu'on n'a vu aucune corrélation entre le Bitcoin, le SP500, le CAC 40, etc. et même l'or. La deuxième chose, c'est que on a vu des choses qui pourraient nous faire penser que le Bitcoin est devenu une réserve de valeur. Par exemple, lorsque Brexit a été voté, Bitcoin est monté de plus de 20%. Lorsque Trump a été élu, Bitcoin est monté de plus de 20%. Lorsque, là récemment, la Turquie a eu une monnaie qui a chuté de 17% vendredi, les plateformes de change en Turquie ont vu leur volume monter de plus de 100% sur cette journée-là. Donc on voit en tout cas clairement des gens qui vont acheter du Bitcoin lorsque ils sont dans une situation économique et monétaire compliquée dans leur pays.
Bon, les pays en crise n'ont pas le monopole dans le secteur. On sait par exemple que l'Estonie travaille sur sa propre crypto-monnaie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce programme ?
Alors, en Estonie, aujourd'hui, ils ont sorti, il y a à peu près 2 ou 3 ans, je crois, le programme de e-residency, qui est un programme très intéressant. On peut devenir e-résident estonien pour accéder à leurs services numériques. Il faut savoir que l'Estonie est le pays le plus avancé en termes de services numériques. Et il est hyper simple en Estonie de déclarer ses impôts en ligne, il est hyper simple de créer une entreprise en ligne, il est hyper simple d'accéder à une suite de services un peu sous la forme d'une API en ligne en Estonie. Et donc ils ont voulu faire profiter cela à tout le reste de la population. Et dans ce cadre-là, ils ont réfléchi à émettre une crypto-monnaie pour ce programme-là. Quand est sortie la nouvelle que l'Estonie y réfléchissait, l'ECB a tout de suite réagi, donc la Banque Centrale Européenne a tout de suite réagi en disant « ce n'est pas possible que l'Estonie le fasse, ils font partie de l'Union Monétaire Européenne et donc ils ne peuvent pas choisir pour nous ». Par contre, dans le cadre du programme e-résidence, si on établit que c'est vraiment une crypto-monnaie privée dans ce cadre-là et pas une crypto-monnaie étatique, il est possible qu'il le fasse et que ça facilite bon nombre de choses, tracer les paiements, vérifier les signatures, authentifier qui a signé quand, et ça rentrerait dans leur cadre de numérisation de leurs services. Donc oui, c'est très intéressant, et c'est intéressant dans un cadre différent que les pays émergents dont on a parlé, puisque eux pensent à émettre une crypto-monnaie pour ce service-là, et non pas pour éviter des sanctions, mais pour apporter de nouveaux services. Et donc, très intéressant à voir comment ils vont le mettre en place, s'ils le mettent en place, et j'ai hâte d'en savoir plus.
Et hors micro, tout à l'heure, vous me parliez de monnaie numérique de banque centrale. Donc, est-ce que les banques centrales des grands pays réfléchissent à leur propre crypto-monnaie là ?
En fait, les banques centrales, il y a un énorme problème aujourd'hui qui est un peu, en anglais, on pourrait dire « the elephant in the room », c'est l'éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, c'est qui est tout petit mais dont qu'on ne voit pas, mais qui en fait a un gros problème, c'est que le cash est en train de mourir. Et donc, vu que le cash meurt, plus tard, les citoyens, lorsqu'il n'y aura plus du tout de cash, n'auront plus accès à la monnaie publique de banque centrale, mais seulement accès à des monnaies privées de banque commerciale. Et donc, on voit une perte de la souveraineté sur l'aspect monétaire, puisque on n'aura plus que accès à des monnaies privées qui seront dénommées en euros, mais qui viendront de banques commerciales. que à cause de cela, la politique monétaire se transmettra seulement par influence des banques commerciales, et donc il n'y aura plus aucun lien entre la politique monétaire et le citoyen. Donc ça pose des problèmes. Donc aujourd'hui, les banques centrales réfléchissent à l'émission d'une monnaie numérique étatique pour ces raisons-là. Il y aurait aussi potentiellement d'autres raisons. Une monnaie numérique étatique permettrait de tracer tous les paiements sur cette monnaie numérique, permettrait également, comme l'exemple de l'Estonie, de créer des services directement sur cette monnaie numérique à travers par exemple une application, et potentiellement pourrait aussi désintermédier les banques commerciales. Donc il y a beaucoup de problèmes parce que cette désintermédiation des banques commerciales ferait en sorte que moi je serais plus intéressé par exemple d'avoir une monnaie numérique étatique qui n'a pas de risque attaché à elle de faillite, plutôt qu'une monnaie qui vient d'une caisse d'épargne par exemple, ou de n'importe quelle autre banque française, mais qui a un risque de faillite puisque c'est une entité commerciale privée qui peut être amenée à faire faillite si tout le monde décide de retirer son cash de la dite banque et de faire un bank run. Après, je crois que ce n'est pas dans l'intérêt des banques centrales d'ouvrir des comptes en banque pour leurs citoyens. Donc il faut trouver un bon moyen de créer cela, et beaucoup de banques centrales y réfléchissent. La Banque d'Angleterre y réfléchit très sérieusement. Aux États-Unis, certaines banques centrales d'État, par exemple la Federal Bank of St. Louis, ont publié un article dessus, de la recherche dessus, en disant que c'était un sujet vraiment intéressant et pertinent pour l'avenir de la politique monétaire. Et on le sait tous que la Chine est en train de réfléchir très sérieusement à cette notion-là, d'autant plus qu'en Chine, sur le côté paiement numérique, ils sont bien plus avancés. Aujourd'hui, beaucoup de gens en Chine payent avec WeChat. Beaucoup de commerçants n'acceptent plus le cash et tout passe par WeChat. Donc on est bien dans un monde de paiement numérique, mais qui est totalement privé. Et qui ne dépend plus de la banque centrale. Et donc c'est une perte de souveraineté de l'État qu'elle souhaiterait récupérer, et donc elle a besoin de réfléchir à tout cela, à le Bitcoin, l'avènement du Bitcoin et le fait que le cash est en train de mourir sont deux raisons très fortes pour que les banques centrales réfléchissent à ce sujet.
Merci beaucoup Brian.
Merci à vous.
Merci beaucoup à Brian O'Hagan pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références et nos précédents épisodes sur SoundCloud et Deezer. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!